La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Optimiste. Ce soir au programme, une interview de Charlotte Hubert, professeure d'art plastique à l'UQO, qui organise un projet avec ses étudiants de 3e année autour de l'écriture et de lecture de textes surréalistes et dadaïstes. En deuxième partie d'émission, on retrouvera la chronique d'Elisa. Ajustez votre gilet sauvetage, c'est parti. Mais avant tout, on souhaite la bienvenue, on salue, on applaudit tous bien fort Adam d'Infoscope.
Merci.
Bonjour Adam.
Salut Adam. Alors il paraît que tu as une réclamation à faire.
Tout à fait. J'ai reçu un message sur mon Twitter, @infoscope, de la part d'un auditeur qui me dit:
pourquoi c'est pas Ben qui fait les chroniques chaque semaine? Toi tu parles trop vite et lui il est drôle avec son histoire des Simpsons.
Bon, déjà, merci du follow. Grâce à ce geste, c'est le journalisme sans concession qui en sort grandi. Ensuite, c'est pas que je parle vite, c'est que j'ai le flow d'Eminem. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, maintenant, j'ai la voix de Booba.
En même temps, qui dit long week-end, dit long week-end.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je pourrais vous chanter d'équerre pour vous le prouver si vous voulez. Non ? Bon, d'accord. Dans tous les cas, je voulais vous dire que c'est moi qui ai soufflé l'idée des Simpsons à Ben. Surtout, si c'est pour terminer sur les guésmères de la Cégette. Franchement, c'est pas très sérieux. Je le savais que j'aurais dû la faire moi-même, cette chronique. J'en étais même sûr. Je dis pas ça parce que je suis vegan, mais si on ne retient que ça, on va pas aller très loin quand même.
En tout cas, avec 6% de syndiqués, c'est vrai que le taux de syndicalisation est vraiment à son plus bas niveau. Peut-être pas son plus bas, en tout cas très faible en France.
Un niveau historique, tu dis malheureusement vrai. C'est pas le nombre de centrales différentes, de centrales différentes qui va aider. T'as la CGT, t'as la CFDT, la CGC, la CFTC, le CIC. On s'en sort pas. Comme disait ce voleur de Ben la semaine dernière, l'individualisation des rapports de production empêche la syndicalisation et rend le travail du syndicaliste encore plus compliqué. Comment tu fais collectif quand t'es imprégné du mythe du self-made man? Et c'est pas la propagande globalement anti-syndicat qui va changer quoi que ce soit. Mais même si avec ça, je pense qu'on pourrait s'en sortir. C'est pas comme si les syndicats n'étaient pas devenus des institutions à part entière, participant à leur échelle à la santé de notre démocratie libérale.
Enfin, ça marche que si le dialogue social n'est pas rompu.
Oui, c'est vrai, bien sûr. On pourrait d'ailleurs accepter cet état de fait, devenir comme Homer, se transformer en syndicaliste pantouflard. Tu vois, ce genre de personne qui fait passer la grève qu'il a organisée en heure de délègue pendant que toi, t'as perdu une journée de travail. Bon, celui-là, c'est vrai que t'as pas trop envie de le respecter. Bon, heureusement pour nous, rares sont les gens comme ça. La plupart des syndicalistes font même leur job, un bon job. Et c'est pas toujours facile quand t'es tout seul dans ton usine. Parce que quand tu dis que t'es pas d'accord, direct, tu passes pour un affreux gauchiste qui bouffe de la guesmer en chantant l'international. Et franchement, ça aussi c'est naze.
Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Bah, tu sais ce que je pense? Il nous manque d'un truc. Du genre d'une boussole, d'un horizon. En gros, la perspective d'un changement de société. Tu vois, il y a encore 40 ans, des millions de personnes voyaient dans le socialisme un modèle enviable. Avec la chute des régimes à l'est de l'Europe et les crises cycliques du capitalisme, pas aidées par la gestion relativement passable de la social-démocratie, difficile de ne pas comprendre que la syndicalisation soit à l'ordre du jour. De personne, en fait. Comme dirait Vladimir Ulyanov, dit le L, la mission de l'organisation révolutionnaire, c'est de faire comprendre aux travailleurs qu'avant de parler de paradis dans les cieux, il est possible de construire le paradis sur Terre. En disant ça, je suis conscient qu'on va pas ressusciter le spectre qui hante l'Europe, mais rien n'empêche, à l'instar d'Akhenaton, d'atteindre la fin de leur monde. Et j'ajouterai, parce que moi je suis comme ça, je suis rappeur, un peu dans mes heures perdues, en réfléchissant au monde d'après, puisqu'ils sont incapables de le faire. Sur ce, topette, et à une prochaine. Merci.
Mais merci beaucoup, Adam. Charlotte, une réaction. Qu'est-ce que t'as pensé de sa diction?
Ah, c'était pas mal du tout. Ah oui, oui. Je pourrais d'ailleurs vous mettre un 18 sur 20 si vous étiez un de mes étudiants.
Une note qui fait pas très système progressiste comme on l'entend aujourd'hui.
On prend les notes où elles sont.
Mais en tout cas, Charlotte, on parle de cette prosodie puisque toi, on a travaillé ensemble, oui, sur un projet avec des étudiants en L3 d'art plastique à l'UQO, justement sur la diction, sur la prosodie, parce que tu les faisais travailler sur l'écriture et la lecture de textes surréalistes. Bon, déjà, bonjour.
Bonjour à Hugo. Je suis ravie d'être ici, merci beaucoup.
Donc l'écriture de textes surréalistes et dadaïstes, qu'est-ce que c'est le surréalisme en trois mots pour nos auditeurs ?
Alors d'abord juste, je tiens peut-être à contextualiser si je peux le projet, voilà. C'est dans un cadre, dans le cadre d'un cours donc de performance, voilà, dans le département d'art plastique. Nous avons travaillé donc, si je peux me permettre, non pas à partir de protocoles surréalistes, mais dadaïstes en fait.
Donc il y a une grosse différence entre les deux ?
Non, le dadaïsme et le surréalisme sont deux mouvements qui se suivent et qui sont répondent et qui font écho. Le dadaïsme, donc, c'est un mouvement du artistique, littéraire et intellectuel du début du XXe siècle, en fait, qui se déploie entre 1918 et 1924. Alors, c'est quoi le dadaïsme ? C'est pas un cheval, c'est pas un bébé qui commence à parler, c'est pas une promenade, d'accord ?
Ce n'est pas une pipe, comme le dit si bien le tableau.
Pas du tout, du tout. Mais le terme dada a été trouvé au hasard en feuilletant les pages d'un dictionnaire, en fait. Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est un mouvement, et c'est surtout un mouvement qui voulait mettre en fait terme avec les valeurs rationalistes et bourgeoises présentes dans l'art du XIXe siècle.
Et alors, ces valeurs rationalistes et bourgeoises, ils ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière en disant on ne fait des choses qui n'ont aucun sens.
Exactement, les choses qui n'ont aucun sens, avec au cœur de ce mouvement, donc, le langage. Un langage donc provocateur, hétéroclite, internationaliste, parce que le dadaïsme était parlé dans plusieurs langues. Et donc les poèmes performance n'ont pas de sens et sont faits de mots inventés, découpés, hachurés. Il y a vraiment cette volonté d'aller vers un langage libre et cette absence de limite est vraiment revendiquée en fait en permanence par ces écrivains, poètes et plasticiens en fait. Voilà.
Et ça, c'est toujours des choses qui sont revendiquées aujourd'hui. Ce mouvement perdure encore un peu. Il y a des auteurs contemporains peut-être de référence.
J'en ai pas en tête, mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs ou d'artistes qui se sont imprégnés du dadaïsme.
Est-ce que finalement le dadaïsme ne peut pas s'approprier et être... Tout le monde ne peut-il pas s'approprier le dadaïsme ?
Si, exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé, en tout cas, à mes étudiants en art plastique, donc dans mon cours de performance narrative, de s'approprier, en fait, un protocole dadaïste issu d'un manifeste, en fait, dadaïste, écrit par Tristan Tzara. Et donc, le titre est « Pour faire un poème dadaïste ».
Donc ça, c'est un protocole, tu cites ce protocole-là, puisqu'il y a, en fait, il y en a plusieurs.
Alors, on peut retrouver plusieurs protocoles, plusieurs articles, plusieurs poèmes, en fait, dans ces manifestes. Et donc, moi, j'ai vraiment extrait celui qui s'intitule « Pour faire un poème dadaïste », en fait.
Alors, je crois que tu l'as sous les yeux. Est-ce que tu veux nous le lire ?
Alors, « Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux. » Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-le dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre. Copiez-les consciencieusement dans l'ordre. Le poème vous ressemblera et voilà un écrivain infiniment original, d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. Donc, tout le monde peut, en fait, réaliser et écrire un poème dadaïste.
Est-ce qu'il y avait, à travers ça, aussi une grosse critique de la presse à l'époque ? Puisque finalement, on déconstruit complètement l'information. Et c'est des choses qui peuvent aussi se retrouver dans la critique des médias dits dominants qu'on peut avoir aujourd'hui dans
Alors,
notre société.
Alors, en tout cas, une critique, de cette presse dominante... Et des critiques d'art, en fait, qui encensaient un art institutionnel, très mis en place et puis emprunt, en fait, de valeurs bourgeoises.
Donc c'est plus une critique de la bourgeoisie que du journalisme ?
Je pense, oui.
Ouais. On pourrait critiquer les deux ensemble.
Je ne connais pas l'histoire du journaliste du début du XXe siècle. Voilà,
en tout cas, tes étudiants se sont appropriés ce projet pour en sortir une quinzaine, je crois, de lectures, de prestations, de performances.
Voilà, de poèmes performances, en fait. Parce qu'il faut savoir que chez les dadaïstes, il y avait aussi beaucoup. Ils se produisaient au Cabaret Voltaire à Zurich. En 1916, et donc il y avait énormément de performeurs, ils lisaient des poèmes sur scène, ils jouaient avec des marionnettes, ils étaient déguisés, donc il y avait cette mise en scène et ces gestes, ces actions, ainsi que le langage, ce langage provocateur qui était présent en fait tous les soirs sur la scène du Cabaret Voltaire.
Avant qu'on en parle plus longuement, on va écouter un extrait justement du travail que les étudiants sont venus faire ici à Radio Campus Angers.
Sorto de burro, uno solo bociste león, don labio yo colo, dos años cincuenta soixante. Uno solo bos montreón, ludo en avant. Ulon soignan bono a los carros sordos taro bro fracasento tolo qui cacho los fono tros mi traco qui nous oblui objo ulon poso cosfo cosfo oso os Mublo a qua tropio u lomposo do sobjo Pudo giuno su fraco duro su lo colompu marchor Sorto de burro Ulo solo bociste leon Non labio io colo Dos anno o cinquento soixanto Ulo solo bos montreon Udo en avant Ulon soignan Bonellos caros Ados arro
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Alors c'est un projet, c'est une performance qui a été faite par Sarah,
Marquis, exactement, une de mes étudiantes. Elle chante. Sarah a une pratique aussi du chant en fait, et elle a écrit un poème dans lequel se mélangent des onomatopées avec des morceaux en fait de ce qui pourrait être de l'espagnol, me semble-t-il. Mais bon, voilà, Sarah peut-être va. On pourrait en parler mieux que moi, j'imagine. Et donc, sur la musique de Carmen, qu'on l'opéra, reconnaît tous, oui. D'un opéra qu'on imagine quand même entendu, chanté dans un endroit, dans un opéra peut-être assez, dans un lieu assez cossu. Et donc, c'est une sorte de pied de nez, en fait, à cette référence connue. Et puis, peut-être aussi des fois la façon de chanter qu'ont les chanteurs d'opéra qui peut être assez magistrale. On a un langage complètement décousu en fait, ce qui fait complètement référence au dadaïsme, et puis plein d'absurdes et d'humour comme vous avez pu l'entendre.
En tout cas, on se souvient de ce projet. On se souvient de tous les projets, évidemment.
Les projets, bien sûr.
Et d'ailleurs, on pourra, petite ellipse, on a passé un très bon moment à les enregistrer.
Très bon moment.
À les enregistrer. Oui. Et on va les faire. Écoute, ils seront à l'antenne de Radio Campus Angers pendant tout l'été. Oui. Tous ces projets-là vont être diffusés à l'antenne de Radio Campus Angers durant tout l'été. En tout cas, celui-là, on s'en souvient. Enfin, moi, je sais que quand je rentrais chez moi, je chantonnais Carmen dans ma tête, quoi.
Oui, parce que c'est une référence qu'on a tous, oui. Je pense.
Mais bon, au-delà de la référence de Carmen, ouais.
au-delà, c'est-à-dire de la
au-delà de l'air, il y a quand même quelque chose.
Bien
de...
sûr, il y a, je pense, il y a une appropriation très personnelle, mais il y a aussi un rythme qu'elle a mis en place. En fait, il y a une voix, et c'est un projet dans lequel, enfin, moi, c'est un projet aussi. La preuve, je lui ai envoyé après le lien de l'opéra sur Arte, parce qu'effectivement, j'avais aussi l'air en tête, en fait. Son projet avait aussi retenu mon attention.
Qu'est-ce qu'on a pu entendre d'autre que ce projet-là ? Je me souviens de certains ou certaines des élèves qui avaient vraiment respecté ce protocole en prenant, vraiment en découpant des morceaux de journaux qu'ils avaient ensuite collés de manière plus ou moins aléatoire sur une feuille, d'autres qui faisaient des lectures à plusieurs, d'autres qui s'enregistraient lisant je ne sais plus quel texte, mais qui en fait était avec le ton d'un discours d'une personnalité politique. En fait, ça peut être très très varié, il n'y a pas
oui,
une seule...
Oui, c'était très très varié. Le cœur vraiment, cette proposition était de respecter ce protocole dadaïste. Ils ont tous fait cet exercice en découpant ces petits bouts de papier dans des journaux. Et puis ensuite, chacun a remouliné un peu, en fait, à sa sauce, en fait, le texte que ça donnait. Et puis il y a eu entre les deux, en fait, entre ce passage radio et... ce petit brouillon, en fait, voilà, avec ces petits papiers découpés, il y a une proposition qui était vraiment une performance dans laquelle il y avait aussi du geste, bien sûr, ce qui ne se... à la radio. Le but était, le but était de dépasser cette difficulté, en fait, comment on passe d'une performance où il y a du geste et puis où il y a de l'oralité, du texte, enfin des textes décousus, et comment on peut faire entendre à la radio, en fait, leurs propositions. Et c'est vrai que ça a été aussi tout l'enjeu pédagogique, voilà, de s'approprier ce nouvel outil qui est, l'outil radio, en fait, radiophonique.
Comment est-ce qu'on fait justement pour passer du dadaïsme à la radio quand on sait finalement ce non-sens que ça peut parfois représenter ?
Ben, on invite Hugo.
Non mais c'est-à-dire quels ont été les outils aussi qui ont été mis en place pour eux ? Il y a simplement des aspects prosodiques ou il y a d'autres choses qui ont été travaillées en cours ?
Alors, je dirais qu'il y a eu principalement les aspects prosodiques, en fait. Mais il a fallu les pousser, les amener à mettre de côté, en fait, vraiment les gestes et l'aspect visuel, en fait, visible. Aussi normalement des performances qu'ils sont habitués à faire en direct pendant les cours. Voilà, là on passe à la radio, à c'est plus seulement des performances visuelles, mais c'est aussi la voix, en fait, qui devient un outil performatif et qui devient un outil performatif et qui peut cette voix, elle peut se travailler, en fait. On peut lui donner des formes, des couleurs, de la matière. Et je pense que c'est ça qu'ils ont retenu aussi, enfin, j'espère.
En tout cas, ces étudiants, ils sont en troisième année d'art plastique.
Exactement.
On dit art plastique, donc effectivement, c'est quelque chose de très visuel. Comment est-ce qu'ils ont reçu ce projet de performance qui tournait simplement autour là, de l'écriture, entre guillemets, autour de l'écriture ?
Bah, déjà, donc, mon cours, c'est un cours de performance narrative quand même. Le but, tout le semestre, ça a été de faire... s'immerger en fait dans la parole, une matière première, en fait. Enfin, la parole, c'est une matière première à l'élaboration de performance. Et donc, entre le geste et le texte, mais c'est vrai qu'on est arrivé à la fin du semestre à un dépouillement en ne gardant que la voix. Et je pense que ça a été déroutant, peut-être pour eux, au départ. Ça a certainement généré aussi une forme de stress, mais en même temps, j'ai l'impression, vu les retours, de plaisir. Parce que là, on est arrivé à un format qui n'est plus du tout visuel, en fait.
Mais ça les fait sortir quand même vraiment de leur zone de confort, de créer des choses dadaïstes.
Alors, oui, par rapport à leurs études et au cursus, peut-être qu'ils ont suivi ces trois dernières années, bien que je pense qu'ils aient déjà eu des cours de performance. Mais après, aujourd'hui, dans l'art contemporain, le son, les performances narratives, La fiction, la narration, l'oralité, en fait, sont de plus en plus, sont des pistes de plus en plus exploitées, en fait. Voilà, la radio rentre dans les centres d'art, la littérature, la poésie prend place aussi de plus en plus. Donc, je trouve que ça va aussi dans le sens de tout ce qui est en train de se passer en dehors de l'université, en fait.
Et pour, pourquoi est-ce que pour toi, c'était important de les faire travailler sur le dadaïsme, précisément ?
Parce que, donc, à l'université, on articule en fait les cours de pratique avec quand même des cours d'histoire de l'art, avec de la théorie. Et donc, pour moi, c'était un tremplin. C'est-à-dire que non seulement ils pouvaient comprendre ce qu'était ce mouvement, ce courant artistique. Et en plus, ça me faisait comme une sorte de petite rampe de lancement, en fait, avec ce protocole pour les amener, en fait, à créer leur propre poème dadaïste. Et surtout, ce mouvement, en fait, artistique, je l'ai choisi parce qu'il est composé de poètes, de plasticiens, d'écrivains, d'intellectuels, en fait, et que la question des médiums était complètement décloisonnée. Voilà, il y avait un enjeu derrière qui était plus important, en fait, que je suis peintre ou je suis poète. Il y avait un enjeu politique, en fait, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de faire table rase, en fait, avec, comme je l'ai dit, des valeurs morales, des valeurs morales assez bourgeoises.
Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, tu es prof d'art plastique à l'Université catholique de l'Ouest et nous avons travaillé ensemble avec un plaisir partagé.
Un plaisir partagé.
sur ces petites créations, ces performances dadaïstes des étudiants de L3 qui seront diffusées tout l'été sur l'antenne de Radio Campus
Merci.
Angers.
Merci, j'espère qu'on renouvellera l'expérience.
Tout de suite, petite pause musicale. On s'écoute Vituco de Flex Fab et Zilorba. Yeah. They're the boss on this one. I told you we taking over. Taking K-City to the next level. Yo, Flex Fab! But who need Vituco, man? Yeah. Listen. Vituco. Vituko, 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 kukwe hukutele vituko. Vituko, 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 kukwe hukutele vituko. Kukwe hukutele vituko, 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 vituko. Kukwe hukutele vituko, 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 vituko. Mugogo. Similani mizichenda Salamu ni bule swanya kuza chanzi ya sena Yeah, tereni ya kwehu Ii ni barua ifike parese sena Namanya ni namanjika kunena Haswara kwanza ni hongo kuku Kenya Riri ni shaka rirofunga taka kenga Dogo wasundwa rihogbira na kapienga Mada wakufushwa nduguze huni mateja Kama na kufu za kutafuta tetenga Zuni na nizala ngikira kwa ni kakenga Nikumona honze na sindano anadenga Vina ni konya unongo na ngiraze Gala boda security tatu na kiraze Nuka na zuza vina mbaze Smanya kala uo sikiza ya unambaze Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Kukwe hukutele vituko, 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 vituko Vituko, 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 vituko Oko funi anji makafiri ni achache Sunday nisika kukala makatange Afedike hanizo sadaka ni zakpakwe Pande agule gari ya jenge kpakwe Funa kusera badamu da funa zuta Mana mashagare roga na nyufa Ukizi henda kitwa siku zizi unafutua unanyutua Uriche family baki zuta Aho watite wana manyata kwa pusha Na manyata fote shash kush na arusha Mungo kakizwa ni ulongo na ninji luga Kuhumira binu feki ili kupata bunda Cheki, kakuna kazi si freshi Iza fika mira vija na hufal kesi Naona ibarua mwisho ndare hatetesi Richa ni sepe tena harako pesi Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Kukwe hukutele vituko, vituko, vituko Et ça danse dans le studio, il est exactement 18h25 sur Radio Campus Angers, et tout de suite c'est l'heure de ta chronique, Elisa. Salut Elisa.
Salut Hugo.
Tu es avec nous pour parler d'un truc beaucoup moins cool que cette musique qui t'est arrivée il y a 3 ans et c'est l'occasion pour sensibiliser sur le handicap invisible.
Ouais, complètement. Donc il y a 3 ans, juste après Noël, j'ai eu des douleurs affreuses au ventre. Je sais pas tout vous détailler, mais on m'a diagnostiqué une pancréatite auto-immune. Donc pendant cette année et demie de maladie, j'ai remarqué des changements dans mon entourage. On a commencé à me faire des réflexions sur tout ce que je faisais ou ne faisais pas comme tout le monde. Nombre de fois, on m'a fait des remarques sur mon assiduité en cours. Je me souviens d'une ancienne copine qui était aussi ma voisine de classe. Et ben, elle avait trouvé intelligent de me faire des réflexions sur mes notes qui étaient selon elle trop élevées au regard de ma présence en cours. Enfin bref, une conne. Mais cette histoire soulève en fait un problème plus large. Celui de la prise en compte d'un handicap lorsqu'il n'est pas visible. En gros, le concept de handicap invisible. Pour faire court, c'est la même chose que le handicap, mais là, l'entourage ne peut pas le voir aisément. Il existe donc une grande différence entre la réalité des personnes en situation de handicap invisible et celle des personnes extérieures. Les porteurs de handicap invisible renvoient à la société une image de personnes valides. Pour le commun, leurs difficultés de fonctionnement sont corrigeables par simple volonté. Elles sont même bien souvent soupçonnées au contraire de ne pas faire d'efforts. En gros, si ça se voit pas, ça peut pas exister. Je vous propose alors quelques tips pour être plus tolérant envers les personnes en situation de handicap invisible. Petit 1. Écoutez les gens quand ils vous disent qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Exemple. Un de tes potes te dit qu'il peut pas boire d'alcool car il a une maladie. Bah tu dis ok, tu lui proposes un Virgin Mojito. Tu vas pas commencer à débattre sur la gravité de sa maladie en espérant qu'il boive une bière, non. Petit 2, ne calquez pas votre situation sur celle de quelqu'un d'autre. Ok tonton, ton copain Daniel vit très bien avec son diabète, mais c'est pas le cas pour tout le monde. En plus, il y a de fortes chances pour que la maladie dont on parle ne soit pas exactement la même. Il y a toujours de légères différences d'appellation qui cachent en fait des maladies aux symptômes bien différents. Petit 3, n'imposez pas votre imaginaire préconçu. C'est pas parce que vous avez entendu à la radio qu'on vivait correctement avec telle ou telle maladie que c'est le cas pour tous. Rappelez-vous que chaque corps réagit différemment et qu'une personne qui vit bien ne fait pas la terre entière. Petit 4, soyez tolérant. Oui, il peut arriver que vous ne compreniez pas toujours le handicap des autres et même que vous ne le voyez pas. Mais c'est pas une raison pour bondir à la moindre chose que vous ne concevez pas. Laissez les personnes en situation de handicap invisible faire comme elles peuvent tout de même. Petit 5, et enfin, et par-dessus tout, laissez la parole aux concernés. Bah oui, comme dans tous les milieux militants, il faut donner de la visibilité aux personnes elles-mêmes impactées. Voilà, j'espère vous avoir appris des trucs et que vous pourrez être plus cool avec votre pote, sœur, tante, collègue ou camarade porteur ou porteuse de handicap invisible. D'ailleurs, tout ce que je dis là s'applique également et bien évidemment aux personnes en situation de handicap visible.
Merci beaucoup Elisa pour cette belle et première chronique à notre antenne, sûrement pas la dernière.
J'espère.
En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'Optimiste, c'est fini pour ce soir. Merci encore à Charlotte Hubert d'avoir répondu à nos questions et à Étienne à la programmation musicale et à la technique. Nous, on se retrouve dès demain et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Écoutez l'émission
sur le www.radiocampusangers.com.